要动作。
Bonsoir, vous êtes sur 106.3, fréquence Paris Pluriel, l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des militants de Attac.
Et nous recevons personne ce soir, parce que nous sommes entre nous, mais nous allons quand même commencer par les chroniques d'actualité de Jean-Marc.
Alors, on commence par les sarcopholies. Heureusement, Nicolas Sarkozy ne nous a pas laissé orphelin, il est revenu en politique, et heureusement, parce que ça nous fait bien rigoler, et qu'il y a toujours du nouveau avec lui. Alors, on commence par les brèves rigolotes. Sarko a eu, et c'est pas la première fois, le premier prix du mensonge décerné par un jury de journalistes pour sa très bonne campagne à l'intérieur de l'UMP pour redevenir le chef de cette vieille boutique de droite. Donc, un premier prix du mensonge.
Une boutique qui met assez d'argent dans la com, elle change de nom tout le temps. Quand
voilà,
même.
Bah oui, et puis de toute façon, ils vont être forcés parce qu'ils vont bientôt faire faillite, donc il va falloir changer de nom. Alors, pendant que l'UMP fait faillite, entre autres grâce à Sarko, eh bien Sarko, lui, gagne de l'argent. Et c'est la deuxième sarcopholie de la semaine. C'est que pendant que son parti s'étripait autour des commentaires sur la victoire ou la défaite dans le Doubs, puisque l'UMP a été évacué au premier tour de la législative partielle, eh bien Sarko, lui, s'envolait pour faire une conférence payée 100 000 euros seulement à Abu Dhabi. Ce qui me donne la liaison avec la troisième sarcopholie, qui est un peu plus ancienne et qui est plutôt un rappel sur plusieurs années de sarcopholie. Sarkozy adore le golf, il a été très souvent en Arabie Saoudite, il est très très lié au Qatar, il a fait d'ailleurs en tant que ministre du budget jadis plusieurs lois pour favoriser les investissements qataris et les investisseurs qataris en France. Et alors, celui-là même qui adore le Qatar oublie aussi que le Qatar est l'un des financeurs du terrorisme mondial et c'est bien gênant. Alors, justement, ça me permet de revenir sur le terrorisme et le terrorisme en France. Le mois dernier, ça fait à peine un mois que les amis de Charlie Hebdo étaient descendus. Et maintenant qu'on a un peu de recul, on peut peut-être chercher un peu les responsabilités, finalement, de ce qui s'est passé. Alors, en premier lieu, il y a une responsabilité immédiate. On ne saura jamais qui exactement a donné l'ordre de retirer le véhicule de police qui stationnait devant Charlie Hebdo à peu près un mois avant l'attentat. À un moment où on était en vigilance maximum à cause des menaces d'attentat, c'est très très fort. Donc, quel est le cadre de la police ou du ministère qui a décidé ça? Très difficile à savoir. Alors, mais si l'on remonte la chaîne, comme dans l'affaire Mera, les auteurs des attentats de Charlie Hebdo du Cash Center étaient archi connus et archi surveillés. Du moins, ils auraient dû l'être. Mais ils ne l'ont pas été. Pourquoi ? Alors, première étape, la réorganisation des renseignements. Une réorganisation qui a tellement été porteuse que c'est le bazar depuis des années. Et cette négociation a été voulue par Sarkozy, qui voulait sa petite CIA à la française, parce qu'il trouvait que les RG, ça faisait un peu poussiéreux. Et donc, on a tout fondu. Et depuis, c'est le bazar. Et depuis, bah, comme on en a profité aussi pour baisser les effectifs, on n'a plus de quoi filer tous les gens dangereux. Donc, on choisit un petit peu au petit bonheur lequel est le plus dangereux pour le filer. Et on laisse passer les autres. C'est ce qui s'est passé pour les trois de Charlie Hebdo. Alors, deuxième chose, la réorganisation avait été confiée à un monsieur qui s'appelle Squarcini, qui est un monsieur très particulier puisqu'il est l'ami de Pasqua, l'ami de Guérini, l'ami de Guéant, l'ami de Sarko, mais il est aussi l'ami d'une bonne demi-douzaine de chefs du milieu corse. Et c'est à ce monsieur qu'on a demandé de réorganiser la surveillance du grand banditisme et du terrorisme qui sont, on ne peut plus liés. Cherchez l'erreur. Ensuite, on parle beaucoup depuis le mois dernier, c'est l'un des leitmotivs, de la responsabilité de l'école républicaine qui serait pas assez républicaine, qui n'aurait pas formé les gens et qui laisserait à la dérive des tas de jeunes qui deviendraient donc des djihadistes potentiels. Sauf que là, on oublie de dire que les postes ont été gelés dès la fin des années 90 et que sous un certain Nicolas Sarkozy, ils ont non seulement été gelés, mais même diminués de plusieurs dizaines de milliers. Ce sont les mêmes personnes qui baissent les effectifs dans l'éducation et qui vont dire que l'éducation ne fait pas son travail. Cherchez l'erreur. Encore une fois. On va parler de déficience de la justice. Par exemple, l'un des frères Kouachi aurait pu ou dû être en prison puisqu'il était inquiété dans une autre affaire. Mais la justice, pour raison d'embouteillage, n'a pas donné suite. Ce qui fait que ce frère Kouachi qui aurait dû être en prison a bénéficié justement de cet embouteillage pour ne pas être jugé. chercher l'erreur. Sous Sarkozy, on a supprimé des dizaines de tribunaux et on a supprimé des milliers de postes dans l'administration de la justice pour faire des économies. Donc là, encore une fois, on peut se demander si on n'aurait pas pu éviter le massacre chez Charlie et au supermarché Cachère.
Ah, t'es quand même méchant de tomber que sur Sarkozy. Il y a eu plein de gouvernements avant qui ont enlevé des postes dans l'éducation, qui n'ont pas su mettre ce qu'il fallait comme moyen dans l'enseignement dans des quartiers les plus difficiles. Là, tu tombes que sur Sarko.
Ouais, parce que Sarko, non, je suis pas de mauvaise foi, c'est que les autres ont gelé, ce qui revient à une diminution relative, alors que Sarko, lui, a diminué carrément. Et c'est vrai pour la justice, c'est vrai pour l'éducation, c'est vrai pour la police, c'est vrai pour la gendarmerie, et c'est vrai pour les services secrets. Donc pour un monsieur qui, encore au lendemain des attentats, donnait des leçons de sécurité à François Hollande, c'est très fort.
Alors mais on va continuer avec Charlie Hebdo, parce que il y a d'autres sujets amusants, non? Tu veux nous parler d'autre chose? Tu veux nous parler des femmes kurdes?
Non, bah, je peux continuer sur Charlie.
Non, vas-y, fais les femmes kurdes, vas-y. Je sais que tu aimes la féminité et le Kurdistan.
Alors je viens de parler de terrorisme, alors évidemment ça fait penser un peu à la Syrie en ce moment, puisque c'est un peu l'un des épicentres avec donc le Nigeria en ce moment. Et il se passe des choses énormes en Syrie et en Irak avec l'État islamique qui utilise des techniques de guerre ultra modernes, ultra sophistiquées et des méthodes de terreur très modernes aussi, qui vont de la crucifixion, l'enterrement vivant, la lapidation, la crémation vivante à coup d'essence. Bref, des gens super sympathiques et super recommandables. Et jusqu'à présent, face à ces gens super sympathiques et super recommandables, il n'y a que les drones américains et les aviations des différents pays de la coalition qui pilonnent de temps en temps les positions de l'EI, mais personne au sol, sauf les Kurdes. Les Kurdes qui sont les seuls à avoir le courage d'affronter ces monstres en direct. Et ce qu'il y a de très très extraordinaire, c'est que dans l'armée kurde qui fait face aux monstres de l'État islamique, il y a 40% de femmes à peu près, et que parmi ces femmes, il y a des femmes officiers et même des officiers supérieurs. Il y a une femme générale qui a réussi à s'imposer, et c'est quand même symboliquement très beau de voir ce peuple transnational toujours opprimé qui est le seul à avoir le courage de se battre, et qui dans cette armée courageuse de voir 40% de femmes par rapport à un Proche-Orient qui traite les femmes comme des esclaves, voire des esclaves sexuels, comme des gens qui ont des demi-droits ou des quarts de droits, des gens juste bons à voiler et à mettre à la maison, avoir des femmes qui portent le treillis, qui portent la kalachnikov et qui en plus mettent une raclée à des islamistes, ça me fait bicher.
Enfin, on va pas défendre tous les pays du monde. Enfin, les Kurdes sont attaqués, donc c'est normal qu'ils se défendent, qu'ils soient courageux, tant mieux pour eux. Enfin, la description que tu viens de faire des femmes, c'est aussi l'armée israélienne, hein.
Ouais, sauf que l'armée israélienne n'a jamais été autant au corps à corps que les Kurdes actuellement face à l'EI. Et les ennemis d'Israël ont toujours été des ennemis rudes, mais qui étaient des militaires. Là, on est face à des terroristes et des types qui n'ont aucune limite dans l'horreur. Même les pires moments du terrorisme palestinien dans les années 70, il n'y a jamais eu des massacres du type EI. Donc oui, les femmes israéliennes sont courageuses dans leur genre, mais par rapport à l'engagement complet des femmes du Kurdistan, c'est pas pareil.
Et tant que tu es dans les femmes kurdes, tu vas nous parler de l'État kurde. Alors, ça n'existe pas, ça.
L'État kurde n'existe pas, mais c'est un vieux serpent de mer depuis la fin de la Première Guerre mondiale, puisqu'il y avait eu déjà, au moment de la fin de la Première Guerre mondiale, une volonté affichée par les Kurdes d'avoir un État, ce qui n'avait pas été possible. Les Français et les Anglais n'avaient pas tenu leurs promesses. Et Atatürk, qui avait pris le pouvoir en Turquie, avait tout fait pour empêcher la création d'un Kurdistan à l'époque. Sauf qu'aujourd'hui, on est peut-être plus près que jamais de la création d'un État kurde, dans la mesure où les Kurdes, justement, sont les seuls à se battre contre l'EI. Ils sont une force transnationale qui tient tout le nord de l'Irak depuis un certain temps, et donc qui tient une partie du pétrole irakien, qui tient une partie des pipelines avec l'Irak et la Syrie, dont ils occupent le quart nord-est. Et donc, ils ont des moyens de financement énormes qu'ils n'avaient jamais eu jusque-là. Et ils bénéficient aussi d'autre chose, c'est que les Américains ne veulent plus envoyer de troupes au sol, donc ils s'appuient sur les Kurdes, les Occidentaux aussi, une partie des monarchies du Golfe, qui sont prêtes à payer très cher les Kurdes pour ne pas envoyer de soldats. Et donc, ça leur fait une force de frappe qu'ils n'ont jamais eue jusque-là au niveau financier, au niveau militaire. Par ailleurs, ils bénéficient potentiellement de quelque chose d'énorme. Ce sont les erreurs d'Erdogan. Erdogan, l'ennemi turc traditionnel, qui après s'être rapproché des Kurdes intelligemment pendant plusieurs années, avec la crise syrienne, s'est mis de nouveau à taper sur les Kurdes, se les a mis de nouveau à dos, en les empêchant de joindre les Kurdes syriens pour se battre. Et ce qui fait que le Kurdistan, qui était relativement calme, est de nouveau en ébullition. Et au moment où le Kurdistan turc est en ébullition, Erdogan est en train de se couper des alliés de l'OTAN par son ambiguïté totale avec l'État islamique. Il est en train de se mettre en difficulté avec la Russie, qui soutient Bachar el-Assad, alors que Erdogan a tout fait pour faire chuter Bachar el-Assad, puisqu'il est chiite, et que Erdogan est sunnite intégriste. Et donc, pour toutes ces raisons, Erdogan, qui il y a quelques années était en passe de réaliser la paix avec les Kurdes, est peut-être en train de perdre la partie d'un coup par son ambiguïté en Syrie et en se mettant à dos à la fois les alliés de l'OTAN, la Russie, les Kurdes bien évidemment, mais potentiellement le prochain gouvernement irakien si l'Irak renaît de ses cendres.
Pourtant, ça a l'air d'être un fin stratège, cet Erdogan. On verra bien sur quel ressort caché il s'est appuyé. La présidence de la Turquie, il la tient on ne peut mieux. Enfin, on parlait de Charlie Hebdo tout à l'heure. On peut quand même se refaire une petite chanson en souvenir de Charlie, mais celle-là, elle est assez rigolote. C'est « Oh Charlie chéri » de Brigitte.
Bonsoir, vous êtes sur 106.3, Fréquence Paris Pluriel, l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des militants de Attaque.
Et nous allons écouter Alex nous expliquer enfin ce que tout le monde veut savoir. Mais qu'est-ce qui se passe en Grèce, là ?
Ouais. Alors, quand même, dans un premier temps, je tiens à préciser une chose. Dans le souci d'améliorer le niveau et la réputation du PIAF et de cette émission, décidé d'inaugurer une nouvelle rubrique, les pages saumon du PIAF. On voit bien le Figaro, hein.
Les pages saumon sont donc les pages économiques qui sont à l'intérieur du Figaro,
voilà.
Que tout le monde lit ou utilise pour éplucher son poisson.
Oui, c'est ça. Ou pour faire du saumon en papillote. Et donc évidemment, pour des raisons techniques, on va continuer à imprimer en blanc. Hein. Mais l'ambition doit être là, et j'y tiens, être à la pointe de l'actualité économique, trouver un nouvel auditoire et un nouveau lectorat de gens sérieux qui font des affaires et défendre les vraies valeurs. Voilà. Les valeurs économiques.
C'est pas travail, famille, prescrit.
Ouais, ben voilà. Non, mais je m'attendais à un truc comme ça. Je l'avais même, tu vois, j'avais même préparé. Je suis pas soutenu dans cette équipe. Bon, en tout cas.
Alors, soutenu avec le procès du Carlton.
Dodo. Bref. Donc, voilà. Ben, pour parler de la Grèce, je vais commencer par parler de quelqu'un, justement, de citer un économiste de qualité, un économiste français, Nicolas Bavrez. Parce que samedi, le grand Nicolas a sorti, pas confondre avec le petit, hein, a sorti une énormité sur France Culture à propos de la Grèce. En parlant des difficultés que rencontre le nouveau gouvernement dirigé par Tsipras et son ministre de l'économie, Yanis Varoufakis, je le dis comme ça, les gens retiennent, Yanis Varoufakis, il a osé dire « c'est le retour à la réalité ». Et même sur le plateau, il y avait une prof de Sciences Po, Julia Cagé, qui n'est pas franchement gauchiste, elle a failli s'étrangler en l'entendant. Faut dire que c'est carrément gonflé. Depuis que Sarkozy a gagné depuis que Syriza a gagné les élections, on multiplie les menaces et les sales coups pour empêcher Syriza de réaliser son programme. Et voilà que Bavrez nous explique benoîtement que c'est la réalité qui empêche Syriza de mener sa politique. Alors du coup, il m'a semblé qu'il fallait justement parler de la réalité. Et de la réalité de la Grèce, c'est que depuis qu'on a commencé à aider le pays pour faire face à sa dette publique galopante, le PIB a baissé de 25%, le chômage a dépassé les 20%, et la dette est passée de 130% du PIB à 175%. Du coup, les Grecs ont donné la majorité au seul parti qui avait un programme sérieux pour sortir le pays de la crise, arrêter l'austérité, prendre des mesures pour aider les plus démunis, faire participer tout le monde à l'effort collectif, c'est-à-dire, en clair, faire payer les riches, faire, en tout cas, qu'ils payent leurs impôts. Le hic, c'est que pour ça, si la Grèce ne souhaite pas quitter l'euro, ça veut dire renégocier la dette avec les autres gouvernements européens qui détiennent la majorité de cette dette. La réalité, c'est aussi que pour ce gouvernement, c'est aussi que ces gouvernements, celui de Hollande, celui de Merkel, mais aussi les gouvernements espagnols, italiens ou portugais, qui sont pourtant pas beaucoup mieux lotis que la Grèce, ces gouvernements-là ne veulent absolument pas en entendre parler. Alors l'argument savant pour économistes distingués, c'est ce qu'on appelle l'aléa moral. Donc je vous le fais en français ordinaire. Ça veut dire que si on autorise la Grèce à ne pas rembourser une dette qu'elle n'a de toutes les manières pas les moyens de rembourser, on n'aura plus les moyens de l'obliger à mener une politique de lutte contre les déficits. Pire encore, ça pourrait donner le mauvais exemple. Sait-on jamais que les Espagnols, bientôt, votent pour Podemos, qui propose à peu près la même chose que Syriza pour l'Espagne. Du coup, pour mettre un peu la pression sur Tsipras et compagnie, on a fait ce qu'en boxe on pourrait appeler un coup bas. La BCE a décidé du jour au lendemain de suspendre son programme d'aide aux banques grecques. Depuis 2012, la BCE prêtait de l'argent aux banques grecques en manque de liquidité en prenant comme garantie, c'est un tout petit peu technique, des obligations émises par l'État grec et qui sont invendables sur le marché financier puisque, en clair, c'est de la dette grecque.
C'est ce qu'on appelle de la feta ou du fromage de dette.
C'est ça. Et alors, c'était un système qui était assez astucieux parce que ça permettait de contourner les règles qui empêche la BCE de prêter aux États, et ça empêchait le système bancaire grec de s'écrouler, ce qui aurait pu avoir des conséquences sur l'ensemble de l'Europe.
En même temps, c'est assez con, parce que si le monde entier vient en Grèce, c'est pour voir des ruines.
Oui. Ça, tu veux dire que ça aurait été un investissement à long terme, faire de nouvelles ruines en Grèce. Et pour qu'il soit bien clair que c'est absolument qu'un chantage politique, cette suspension du programme, la BCE a décidé que le programme d'aide ne reprendrait que le jour où la Grèce parviendrait à trouver un accord avec l'Europe. C'est malin. Donc la prise de risque énorme de la BCE, qui n'est pas censée faire de la politique, première chose, et deuxième chose, encore moins déclencher une panique bancaire dans un des pays membres de la zone euro, là c'est totalement contraire à son programme, montre bien que l'enjeu est sérieux. Il faut dire que pour Merkel, Hollande et compagnie, l'alternative est compliquée. Soit laisser faire Syriza, et ça veut dire démontrer en fait que l'Europe s'est collectivement plantée durant les 5 dernières années et que l'austérité et les réformes étaient des conneries, soit planter Syriza et donc obliger les Grecs à abandonner l'euro, ce qui va avoir pour effet de décrédibiliser durablement le système monétaire européen. Et le suspense est entier et les négociations sont tendues, d'après les échos qu'on peut en avoir dans des journaux comme les échos. Réponse dans quelques jours, et la semaine prochaine... Ça pourrait être le 16 février, sinon plus tard le 28 février. Et là, je voulais rajouter une autre chose, toujours dans le domaine de l'euro, mais on va quitter le pays, hein, on parlait plutôt de la Suisse. La Suisse est une des victimes collatérales de la nouvelle politique de la BCE. Et alors donc, on revient un petit peu sur la BCE, parce qu'il faut savoir que la BCE, depuis 2012, mène une politique pas très orthodoxe, qui fait d'ailleurs pas mal grincer les dents en Allemagne. Et sans rentrer dans le détail, parce que c'est un petit peu technique... Une des décisions.
Et en France, on n'aime pas les points de détail.
Mais surtout, le diable est dans les détails. Une des décisions qui a été prise par la BCE a été de renoncer à la politique de l'euro fort, qui avait été demandée et à laquelle était très attachée l'Allemagne, et de laisser se déprécier l'euro sur les marchés financiers. Et le but est de permettre à l'Europe, et en particulier aux pays du Sud, de pouvoir exporter plus facilement, donc de gagner en compétitivité sans avoir nécessairement à baisser les salaires. C'est malin.
Malin comme un Suisse.
Et du coup, la conséquence a été très mauvaise pour la Suisse. Parce que plus l'euro se déprécie, plus les investisseurs cherchent à acquérir du franc suisse, parce que c'est une valeur refuge. Hein, la Suisse aussi, c'est un refuge d'ailleurs, pour les capitaux. Et la Banque Centrale Suisse, s'appelle la BNS, la Banque Nationale Suisse, s'était engagée à maintenir un taux plafond entre le franc suisse et l'euro. C'est-à-dire une certaine valeur au-dessus de laquelle il n'irait pas. Il lui fallait donc acheter à chaque fois que l'euro baissait et donc que le franc suisse montait, il fallait qu'ils achètent de l'euro et qu'ils vendent du franc suisse en échange pour que les cours redescendent. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça commençait à devenir très 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 coûteux, très compliqué à mettre en place. Donc du jour au lendemain, ils ont fini par craquer et annoncer qu'ils renonçaient au taux plafond. Donc la conséquence a été une envolée du franc suisse. Dès le lendemain, la bourse de Zurich a réagi, moins 9% en une journée. Alors ça, en Suisse, ça arrive jamais.
Hein. Il y a eu un suicide collectif de marmottes.
C'est ça. On a appelé ça le crack de Zurich, quand Zurich craque. Les boursicoteurs, ils ont tout de suite compris le truc. C'est-à-dire qu'un euro qui baisse, un franc suisse qui monte, ça veut dire que les produits suisses vont devenir beaucoup trop chers pour être exportés dans la zone euro. Et, petit détail géographique qui a son importance, la Suisse est enclavée dans l'Europe. Donc l'essentiel des marchés d'exportation de la Suisse, c'est l'Europe. Donc, éventuellement crise, voire récession en perspective. Alors que faire pour éviter ça ?
Arrêter la fondue.
Ben, ils ont proposé mieux. Ils ont proposé une solution sympa. Moi, ce que j'appelle une solution à la Merkel. Baisser les salaires. Mais comme ils sont pas complètement cons, ils se sont rendus compte que, parce qu'on a fait ça pas mal en Europe, que si on faisait ça, ça allait déprimer la demande et conduire à éventuellement une baisse de la récession, voire à une récession. Donc, mais ils ont trouvé plus malin. Il suffit de baisser les salaires des très nombreux frontaliers qui travaillent en Suisse.
Oh, qu'est-ce qu'ils sont malins, ces Suisses, quand même.
Ils consommeront moins, ils consommeront peut-être un petit peu moins en Suisse, mais c'est pas très important, mais surtout, ils vont consommer moins en France, en Allemagne, en Italie. Moi, je trouve ça sport, quoi. Sympa. Bon esprit.
Suisse.
Alors, évidemment, du coup, ben, j'ai une autre solution à proposer, une solution qui est vachement mieux. C'est que la Suisse rentre dans l'euro.
Ils ont gagné la Coupe Davis en deux mots.
Parce que du coup, ça réglerait évidemment leurs problèmes de taux plafond ou de taux plancher, donc qui serait taux fixe. Et puis, comme on a pu le voir, ils sont déjà totalement dans l'esprit de l'Europe moderne. Hyper solidaires avec les voisins. Voilà. Et alors, bah, dans un tout autre état d'esprit et avec un peu solennellement, je voulais rendre un petit hommage, quoi. Mon petit hommage personnel à un disparu. Donc il y a un mois, un peu plus d'un mois, Bernard Maris est mort assassiné dans des conditions horribles. Je vais pas revenir sur la tuerie et toutes ses conséquences. Mais je voudrais juste dire que je le regrette et que je pense qu'il n'y a pas que moi qu'on le regrette. Et que sur les sujets que je viens d'aborder, il aurait eu des tas de choses à dire avec le talent, l'humour et la hauteur de vue qui le caractérisaient. Donc voilà, c'est mon salut à Oncle Bernard. Voilà.
Oui, et bien là, on vient de parler des richesses, de toutes les richesses de la Suisse. Et bon, voilà, enfin, ce qu'on a envie de chanter, c'est comme tous les chœurs de l'Armée Rouge. Ah, si j'étais riche.
Ah, si j'étais riche. Ah, si j'étais riche.
Si j'étais riche.
Quand je serai riche, c'est fini.
Bonsoir, vous êtes sur 106.3, fréquence Paris Pluriel, l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des militants de Attaque.
Et nous allons écouter la minute de solidarité avec d'abord Gaël.
Et oui, c'est une nouvelle offensive qui se prépare contre les services publics de santé et de protection sociale, avec trois attaques convergentes au niveau international, européen et national. Alors, au niveau international, c'est l'accord sur le commerce des services, de son petit nom ACS ou TISA en anglais. C'est un accord de libre-échange qui est en cours de négociation entre une cinquantaine de pays, dont ceux de l'Union européenne. Et dans un des documents préparatoires, on indique qu'il existe, je cite, « un incroyable potentiel inexploité en matière de mondialisation des services de soins de santé ». Alors, pourquoi ce potentiel n'est pas exploité ? Parce que, je cite encore, les services de soins de santé sont financés et fournis par l'État ou par des associations d'aide sociale et qu'ils ne présentent, pour ainsi dire, aucun intérêt pour les concurrents étrangers, étant donné le manque d'opportunités pour développer des activités axées sur le marché. Alors, comme c'est quand même dommage de priver les cliniques et les assureurs privés d'un marché international, on va favoriser, par cet accord de libre-échange, le commerce mondial de santé et d'assurance santé. Et derrière ces propositions, on trouve évidemment tous les lobbies habituels de la science. Tu as quelque chose à dire, Jean-Marc ?
Non, je pensais au trafic d'organes, c'est tout.
Voilà, là, voilà un marché à favoriser. Alors, l'Union européenne est en pointe dans ces négociations de l'ACS, aidée par ces mêmes lobbies, dans lesquels on trouve l'ESF, qui n'est pas l'école de ski française, mais le Forum européen des services. Et elle mène une politique interne complètement cohérente avec ce qu'elle défend à l'international. En effet, le 15 janvier, une nouvelle directive européenne sur les marchés publics a été adoptée par le Parlement européen. Il s'agit, je cite, « d'assurer aux opérateurs économiques la pleine jouissance des libertés fondamentales dans la concurrence pour les marchés publics ». C'est beau. Les libertés fondamentales de Vinci, de Bouygues, de Médéric, de la Sodexo, je trouve que dans le milieu altermondialiste, on se bat pour beaucoup de choses, mais on se bat pas assez pour défendre ces libertés fondamentales. Et les soi-disant sociaux-démocrates qui siègent au Parlement européen ont voté la directive avec la droite. Ils se sont félicités de ce que la directive permette d'imposer des critères sociaux et environnementaux dans les appels d'offres pour les marchés publics. En d'autres termes, quand on privatise les services publics, mais on se console en imposant aux prestataires privés d'avoir, par exemple, une charte de gentillesse sociale qui n'engage personne, évidemment.
C'est la clause dite de la vaseline.
Voilà.
Officinale.
Avec une approbation par la CFDT. Alors, le problème, c'est que la directive s'applique aussi aux services de sécurité sociale et aux services de santé, sauf, je cite, s'ils sont organisés comme des services non économiques d'intérêt général. Alors, des services non économiques, ça désigne pas grand-chose, en fait, au niveau européen. Et en particulier en France, une bonne partie du système de santé est assurée par des acteurs privés. Donc, la santé et la sécu peuvent être considérés comme des services économiques. Donc, ils sont touchés par la directive. Et, étrange coïncidence, au même moment, en France, arrive la loi Macron. Qu'est-ce qu'il y a dans la loi Macron ? Ben, il y a plein de choses, dont un article qui autorise le gouvernement à transposer par ordonnance cette directive européenne sur les marchés publics. Alors, par ordonnance, ça signifie discrètement, sans passer par le Parlement. Comme ça, on va pouvoir ouvrir à la concurrence des services publics, en particulier des services de santé et de sécurité sociale, donc les hôpitaux, la sécu. Alors, tout le monde ne dormait pas à l'Assemblée nationale. Trois députés frondeurs du PS ont déposé des amendements pour supprimer cet article, mais en vain. Alors, bientôt, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, va proposer un projet de loi sur la santé. Et je pense qu'il faudra le lire de près, car d'après mon petit doigt, on y retrouvera des traces de Macron.
Ah, ça colle partout, c'est désagréable.
Et Macron, ça rime avec Étron.
Oui.
Oui. Non, c'est vrai.
Vous pouvez la garder, celle-là, quand même. Non, je sais pas. Bon.
Ah non, ça fait mal quand on regarde ce genre de choses.
C'est une blague de mauvais goût. Hein. Mais on va continuer avec la solidarité. Que tout est tellement coordonné ici que les articles s'enchaînent exactement. Parce que ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est pourquoi il faut véritablement résister. Parce que finalement, à toute cette privatisation de la santé ou même des caisses de retraite et de tout ce qu'on appelle en France la solidarité. Parce que avec tous ces remboursements de soins à la baisse et des revenus de plus en plus bas pour nos retraités, on pourrait penser que ce système de solidarité qu'est la sécurité sociale, les caisses de retraite, peut être remis en cause. Puis certains décrivent même aujourd'hui les prestations sociales comme un organe de charité qui s'adresse seulement aux plus pauvres. Et on critique les cotisations obligatoires. C'est ce qui rend aujourd'hui le système de santé particulier en France, c'est qu'on n'a pas le choix. Tout le monde doit cotiser pour la sécu. Et au contraire, on pourrait revendiquer, comme l'a fait ce superbe recommandation européenne, la liberté de choisir. Quand même, c'est important, ça, son système de soins ou d'épargne. D'ailleurs, tous les jours, hein, même toutes les radios, même les plus publiques qui soient, on est sollicité par des compagnies privées qui veulent assurer nos santé, assurer nos vies. Et ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est que la solidarité est fondamentale pour nos sociétés et même fondamentale pour chacun d'entre nous. Alors, revenons juste sur ce
anarchiste.
Mot. Oui. Non, pas anarchiste, justement. Là, l'idée, elle est pour chacun. Non, tu vas voir ça. Alors, depuis la fin du 19e siècle, le mot solidarité, c'est vraiment le mot qui s'est créé autour des organisations collectives pour faire face aux risques, alors surtout aux risques liés à l'exploitation pour les ouvriers. On disait, par exemple, que ce sont des pots communs où l'on cotise selon ses ressources et où l'on puise selon ses besoins. C'est une belle formule quand on est tous ouvriers à l'usine. Certains, quand ils sont en bonne santé, peuvent financer pour que d'autres, qui sont en mauvaise santé, puissent prendre un jour de congé ou autre. Alors même d'ailleurs en 1945, la sécurité sociale est dite fondée sur le principe de solidarité nationale. Donc c'est quand même ce qui est l'ancrage même de la définition de la sécu. On peut même aller plus loin en disant que cette sécu crée une sorte de citoyenneté sociale. C'est-à-dire finalement la citoyenneté, on l'acquiert par le droit du sang quand on est de parents français, ou droit du sol quand on est là. Mais là, c'est simplement qu'on devient citoyen au sein de la sécu si on y contribue, par ses impôts, par ses cotisations, sans avoir besoin de papier pour le faire, juste avoir payé un peu. L'idée, c'est que ceux qui sont à un moment donné les plus fortunés contribuent davantage que les autres, et par contre, tous ont les mêmes droits quand il leur arrive un problème. Alors, à l'opposé, les assurances privées, eux, s'appuient sur un système totalement différent, vu que c'est des calculs de probabilité que font ces organes privés pour pouvoir à tout moment rembourser leurs clients, tout en dégageant pour eux, évidemment, un profit important. Pour cela, les assureurs choisissent leurs clients en rejetant les plus exposés aux risques, ceux qui ont une santé défaillante, ceux qui sont trop précaires pour pouvoir rembourser à terme leur crédit. Tout ça dans un esprit d'assurance, dans un esprit de pouvoir être soigné. Donc finalement, l'esprit de solidarité s'oppose, comme vient de le dire Gaël, totalement à la logique marchande des banques et des assurances et se retrouve la cible des politiques néolibérales. Hein, c'est sûr qu'avec 400 milliards pour simplement les régimes de base obligatoires de la Sécu, les appétits sont féroces. Ça représente des plus grosses sommes qui sont hors de, du système marchand qui existe sur la planète. Pourtant, sur ces 400 milliards de régimes de base obligatoires, le déficit reste faible. Alors, c'est sûr que ça fait 20 milliards. Mais 20 milliards, c'est jamais que 5% de cette immense somme de 400 milliards. Et ce déficit de la Sécu n'est pas dû à sa gestion ou à sa nature de solidarité. Mais elle est due principalement à un manque à gagner. Alors, ce manque à gagner, il est en période de crise, hein. Donc ça, c'est la crise qui en est responsable. C'est pas son fonctionnement. C'est-à-dire qu'il y a moins de cotisants, donc il y a moins d'entrées. Mais elle est aussi due à d'autres réformes, hein, dans les réformes gouvernementales qui maintiennent la crise certainement, mais aussi des réformes du type du fait que l'État ne reverse pas, par exemple, les taxes sur le tabac et l'alcool, qui sont a priori là pour embêter la Sécu parce que les gens consomment n'importe quoi, et ces taxes pourraient revenir dans la caisse de la Sécu. Et puis surtout, tous les allègements sur les caisses de cotisations, toutes les cotisations sociales pour les grandes entreprises, sans retour d'ailleurs véritablement d'exigence d'elles, ça fait toujours des manques à gagner. Si on prenait même un autre point qui est le travail au noir, qu'on ne combat peut-être pas assez, ça rapporterait à lui seul dans les 20-25 milliards et boucher le coût de la Sécu immédiatement. Donc ce déficit, il est aussi artificiel qu'on peut imaginer.
Ouais, mais comme il y a des sans-papiers chez les jeunes pop...
Chez les jeunes pop...
Bah ouais, le numéro 2 des jeunes populaires de l'UMP est un sans-papier. Ils sont trop forts, ces gens-là.
Très très fort, cette anecdote, ouais. Et tout ce qui a ainsi réduit les sources de financement fait qu'on essaye de critiquer cette sécurité sociale. Le gouvernement successif, comme vient de dire Gaël aussi le Parlement européen, on finit par effacer cette notion de solidarité en citoyen sous prétexte de la liberté pour tous. Chacun doit pouvoir choisir sa protection santé ou son épargne retraite. Et en rompant ce droit entre le droit de contribuer et le droit d'en bénéficier, toutes ces bases de solidarité s'effacent. On peut même critiquer le Parti Socialiste qui, dernièrement, a rogné sur les prestations familiales pour les classes moyennes pour pouvoir sauver les prestations pour les plus pauvres. Dans l'esprit, on peut trouver ça bien, mais d'un autre côté, ça pousse aussi les classes moyennes à sentir obligées d'aller se tourner vers les assurances privées et transforme ainsi, en plus dans l'esprit des gens, les prestations familiales comme un système d'assistance aux plus pauvres.
Mais l'histoire du vocabulaire de la solidarité, c'est comme ça qu'Obama s'est fait traiter de fasciste et de communiste, simplement parce qu'il voulait un peu de solidarité dans son système de santé, qui était pourtant très timide.
Alors justement, prenons l'exemple des États-Unis, parce que finalement, on pourrait se demander si un autre système de santé que la solidarité permettrait à chacun d'être aidé ou soigné en cas de difficulté. Mais aux États-Unis, bon, faut pas schématiser, il y a aussi des assurances aidées par l'État, des cas un peu limites, mais un client d'une bonne assurance privée aux États-Unis peut quand même ne pas avoir droit à un soin onéreux si ça sort du cadre du contrat. En plein traitement de sa maladie ou de son opération, on peut dire « Ah ben non, là, ça s'arrête là. Je vous ai droit qu'il y ait une seule agrafe pour reboucher le reste. Vous ferez vous-même chez vous. Bonsoir, monsieur. » Donc ce système en plus, évidemment, laisse sans soins, sans retraite des millions d'individus. On arrive à plus de 10 à 12% en 2013 de personnes qui sont sans sécu.
Oui, mais il y a la charité pour compenser.
Elle compense pas suffisamment aux États-Unis.
Sans compter un risque majeur, c'est que comme ce sont des entreprises privées, qu'elles peuvent être mal gérées, ce qui est souvent le cas, elles peuvent faire faillite et dans ce cas-là, les gens ont tout perdu, que ce soit la capitalisation pour les retraites ou les capitalisations pour la santé. Mmh. Ce qui s'est produit sur un certain nombre de caisses maladie et retraite aux États-Unis.
Et justement, à l'opposé de ça, pour ne pas suivre le modèle américain et plutôt prendre le modèle de la France, enfin la France de 1945, je veux dire, les pays émergents comme le Brésil ou l'Inde, enfin c'est pas les pays eux-mêmes, c'est pas les États eux-mêmes, pardon, mais localement, on voit se créer des caisses de solidarité qui rassemblent classe moyenne et pauvre, parce qu'une caisse entre pauvres, ça marche pas trop, mais quand on commence à rassembler un peu plus de monde, ça commence à fonctionner. C'est bien le cas de la France de 45. Et finalement, cette solidarité qui n'est pas de la charité, qui n'est pas non plus des assurances privées, finalement, c'est la base de la citoyenneté. Est-ce qu'on est en France parce qu'on parle tous la même langue ou parce qu'on aime tous le président de la République bienheureux, M. François Hollande ? Non, on est en France parce qu'on est tous pouvoir dire « je suis citoyen » parce qu'on partage tous cette caisse de solidarité qu'est la Sécu, qu'est la caisse de retraite, qui permettent à chacun de pouvoir dire « je vais être soigné » et non abandonné comme n'importe qui dans la rue. Alors j'espère vous avoir convaincu que les caisses solidaires, c'est plus intéressant qu'autre chose, et donc d'essayer de combattre la loi Macron et tout ce qui nous tombe dessus. Convaincu ?
un sans-papier, expulsez-moi. Je suis un ouvrier, expulsez-moi. Ne frappez pas à ma porte. Puisque c'est comme ça.
Et là, on écoutait « Expulsez-moi » par les Têtes Raides. Mais l'heure tournant, nous allons immédiatement écouter Suzanne Georges, qui était interviewée pour les 25 ans d'Association France Liberté, il y a quelques années déjà, et on lui demandait, ce jour-là, alors Suzanne Georges, comment changer le monde ? Comment changer le monde, c'est-à-dire essayer par ce qu'elle est capable de faire. Donc Suzanne Georges, il faut peut-être la présenter en un mot, elle est économiste, elle est surtout présente à travers les pays anglophones et francophones par sa double culture. C'est quelqu'un qui a fait d'énormes best-sellers de livres économiques. Entre autres, Comment changer le monde est un de ses ouvrages. Et elle est connue comme la présidente d'honneur de l'association ATTAC. Souvent présente dans les grands congrès internationaux, elle sait toujours, avec des jolies formules, nous présenter d'autres alternatives. Et son point de départ, toujours basé parfois sur la critique de la finance et de l'économie, rebondit aussi sur les luttes internes. Ce qui me permet de poser la question à Suzanne Georges, alors comment changer le monde ?
Cela commence par la finance. Cela commence par la socialisation des banques et la mise au service des peuples de tout l'appareil financier. Ça, c'est la première proposition. Mais pourquoi faire ? Parce que le monde ne manque pas d'argent. Le monde croule sous l'argent. Et pourquoi faire de prendre le contrôle des banques ? Mais bien évidemment, pour résoudre les autres crises, à commencer par un investissement massif et contrôlé par les sociétés dans la transition écologique vers une économie verte. Les investisseurs auraient leur place, mais pas toute la place. Ça veut dire que l'entreprise, il y a X formules pour faire des entreprises socialisées. On les connaît, il y a des coopératives, il y a des SCOP, il y a toutes sortes de façons de faire cela. Moi, je ne suis pas rigide et je crois que selon le type d'entreprise, il faut être souple sur ces choses-là. Je cite dans le livre l'exemple qui date des années 70, d'ouvriers qui avaient occupé leurs usines en Angleterre qui produisaient des armements. Et la question qu'ils se sont posées, parce que l'entreprise voulait fermer la moitié des 16 usines, c'était: qu'est-ce que nous pouvons faire qui serait socialement utile et que nous pouvons faire avec nos connaissances, avec nos métiers différents, avec nos machines, sans un investissement considérable en plus. Et à la fin d'une année, ils étaient arrivés à faire un livre comme ça, avec des propositions tellement pleines de bon sens, mais aussi d'avenir, de vision, que si cela avait été mis en place, l'Angleterre, aujourd'hui, serait la plus grande puissance industrielle du monde, ce qui n'est pas le cas, parce que on n'a pas donné assez de responsabilité à ceux qui travaillent. Ce sont ceux qui connaissent déjà le mieux. Il n'y a aucune raison que la démocratie s'arrête aux portes de l'entreprise, aux portes de l'économie. Il n'y a aucune raison que la démocratie soit considérée comme un outil politique, mais en aucun cas économique. Je vois la victoire, hélas, et ça c'est un problème de conscience, la victoire du néolibéralisme, du modèle néolibéral, de l'exclusion de ce que j'appelle le modèle des Lumières, le modèle qui avait été à la base des révolutions françaises, américaines, et puis de tant de réformes depuis, tant de développements depuis, qui ont été petit à petit des gains importants pour l'émancipation humaine. Et je vois de plus en plus la crise mise au service d'une mise en place d'un modèle néolibéral absolument sans pitié. Les solutions entre guillemets, mise en place aujourd'hui par les soi-disant dirigeants de l'Europe sont ruineux et sont idéologiques au lieu d'être pensés. C'est cela qui est absolument désolante. Vous entendez tout le temps avec la crise de la dette en Europe aujourd'hui, nous avons une crise de dette, les États ne peuvent pas vivre au-dessus de leurs moyens, c'est comme une famille, si vous vivez au-dessus de vos moyens, vous vous ruinez, vous êtes en banqueroute, etc. Mais ça n'a rien à voir. Une dette publique, souveraine, comme on dit, en dessous d'environ 80% du PNB n'est pas un problème pour un État. Les États restent endettés pendant des siècles. Je crois que les États-Unis ne sont pas hors de dette depuis 1837. Ça n'est pas du tout la même chose. On n'a pas de problème en Europe d'inflation. L'inflation, c'est comme ça, mais ils sont obsédés par l'inflation, que ce soit le FMI, que ce soit la Banque Centrale Européenne, que ce soit la Commission. Mais ce qu'ils devraient faire, c'est ce que j'ai dit au début, ils devraient socialiser les banques, ils devraient avoir des eurobonds, c'est-à-dire des investissements qui seraient triple A, ne dérangeraient aucune agence de notation et qui donneraient tout le cash nécessaire pour amorcer une transition écologique en Europe. Il faut décaper toutes ces mensonges qui circulent et qui font une excuse pour des politiques idéologiques, des politiques nuisibles, des politiques qui enfoncent les gens et qui vont, si on les laisse faire, nous ramener au 19e siècle. Je crois qu'il y a encore la place pour de nouvelles forces vives et nous en représentons, après tout, ATTAC, France Liberté, et il y a de plus en plus de, comment dirais-je, de conscience là qui monte aussi, de gens qui voient qu'on essaie de prendre leur liberté et leur possibilité d'agir et de changer les choses. Donc je ne suis pas pessimiste, je ne suis pas optimiste non plus, mais j'ai de l'espérance. Moi j'ai un maître mot là, c'est alliance. Je crois qu'on peut commencer où on veut. On peut travailler sur la question de l'eau, on peut travailler sur le climat, on peut être syndicaliste, il y a paysan, il y a mille choses que l'on peut faire, mais il faudrait penser non seulement à son bout de réalité à soi, mais aussi à aller vers d'autres forces qui sont les mêmes, qui ont les mêmes préoccupations que nous et qui sont menacées par les mêmes forces extérieures. Et qu'il faut faire l'unité. Je ne dis pas que chacun doit abandonner ce qu'il fait tous les jours. Non, il va continuer à le faire prioritairement. Mais il y a de grands moments où il faut avoir pris l'habitude de travailler ensemble, il faut être ensemble dans une lutte, parce que plus aucune force ne peut gagner seule. Les syndicalistes ne peuvent pas gagner seuls sur les problèmes de travail, les femmes sur les problèmes des femmes, les immigrés sur les problèmes des immigrés, etc. On ne peut pas gagner seul, on a besoin les uns des autres, et plus vite on aura réalisé cela, non seulement sur le plan local, le plan national, mais le plan international, c'est avec cela, c'est avec ces forces-là que nous pourrons changer le monde. Et cela, ça suppose l'unité, ça suppose un grand travail préparatoire, et je crois que nous sommes tous engagés dedans.
Et pour pouvoir s'engager dedans, ben, il faut par exemple aller suivre des conférences ou aller faire des manifestations. Et l'agenda du mois de février, Gaël?
Eh bien oui, le premier, dimanche 15 février à 15h, place de la République, il y aura la journée européenne de mobilisation avec les Grecs, donc pour soutenir le peuple grec et Syriza.
Boris.
À suivre le dimanche 15 février, une projection débat avec Daniel Rome, membre du CA d'Attaque et animateur de la commission Banque et Finances, autour de films de Laurent Richard, banquier, ils avaient promis de changer. Donc c'est au bar-restaurant Le Lieu-dit, 6 rue Sorbier, Paris 20e.
Mardi 17 février à 20h au foyer de Grenelle, des banques au-dessus de tout soupçon, conférence débat avec Dominique Plion, porte-parole d'Attaque France, dans le cadre du livre Le Livre Noir des Banques, partenariat Attaque et le journal Basta, qui seront peut-être nos prochaines invités dans le 20 mois.
Mercredi 18 février, Syriza dans l'épreuve du pouvoir, c'est une soirée débat animée par Thomas Coutreau, économiste, porte-parole d'Attaque France, c'est dans le 13e à la Maison des Associations.
Et on passe de la Grèce à l'Espagne avec le Cercle de Podemos Paris qui vous invite à une rencontre échange d'informations avec les militants et militantes de Podemos Paris autour d'un verre au lieu-dit, dimanche 22 février à 17h, au lieu-dit 6 rue Sorbier, Paris 20e.
Retour en Grèce. Grèce, quelle réalité, quels espoirs. Rencontre avec Roxane Mitralias, militante de Syriza Paris et du comité de l'annulation de la dette du tiers-monde, mardi 24 février à 19h, Balbuzard Café, 54 rue René Boulanger, Paris 10e.
Forum des mouvements sociaux, donc une espèce d'organisation qui essaie de fédérer un petit peu tous les mouvements qui s'occupent des mouvements sociaux. Donc ça sera le 28 février toute la journée à la Bourse du Travail de Saint-Denis, 911 rue Génin. Plus d'informations sur le site d'Attaque.
Hommage à René Vautier, réalisateur et documentariste engagé récemment disparu. Réalisateur, entre autres, de « Avoir 20 ans dans l'Aurès ». Ça sera dans le cadre de la semaine anticoloniale, pour plus d'informations, anticolonial.net, et la date de la projection est le lundi 2 mars à 19h à l'espace Jean Dame, rue Léopold Bellan, à Paris.
Mardi 3 mars, une conférence débat avec Éric Toussaint, du comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Bancocratie, les banques pour qui ?
Et le mardi 10 mars à 18h au Forum des Images, au Forum des Halles, dans Paris dans le premier, carte blanche à Cinéarchives, c'est une séance découverte de films nouvellement consultables, essentiellement sur le PCF et l'histoire du PCF.
Et on arrête ici l'émission, on remercie Jean-Marc, on remercie Boris, on remercie Gaël, on remercie Alex et surtout Claude en régie, et on termine en écoutant In the Mood for Love, c'est un petit peu pour la Saint-Valentin, c'est de Michael Galasso, qui était un grand créateur de BO de films, et entre autres, qui a gagné un César pour le film Séraphine, In the Mood for Love.